Bonsoir, c'est Interlire. Interlire, un auteur face à la presse, et cette semaine avec Pierre Bonsen, nous avons invité le docteur Henri Laborie pour son livre « Dieu ne joue pas au dé » qui est publié chez Grasset. Bonsoir Henri Laborie.
Merci pour docteur.
Ah, je savais que j'allais vous faire plaisir parce que j'ai cru comprendre que vous aviez horreur qu'on vous appelle professeur.
Oui, effectivement.
Pourquoi ?
Je l'ai répondu déjà une fois à Jacques Chancel. Je préfère trouver ce que les autres enseignent qu'enseigner ce que les autres trouvent. En toute simplicité.
Bon, c'est pour parler de votre livre qu'aujourd'hui nous vous avons invité, mais il se trouve, Henri Laborie, qu'aujourd'hui, comme chaque année à la même époque, nous subissons un changement d'horaire. Et je suis à peu près certain que quelqu'un comme vous, qui travaille depuis des années sur la biologie des comportements, a une petite idée sur la question. Pour nous, pour nos organismes, les changements d'horaire, c'est bon, c'est mauvais, c'est indifférent ?
Je ne suis pas spécialiste en chronobiologie. Je suis abonné à la revue française, ou même je pense qu'elle est internationale, de chronobiologie. Très sincèrement, je vous dirais que je ne pense pas que ça soit à une heure près.
Ouais.
Il y a bien sûr des problèmes de chronobiologie très importants qui font que si vous dormez le jour et que vous travaillez la nuit, votre organisme est sûrement profondément perturbé. Et même sur, quand on traverse l'Atlantique, par exemple, vous l'avez fait sans doute, il y a ce qu'on appelle le décalage horaire qui fait que le lendemain, moi, ça ne me gêne pas. Mais enfin, beaucoup de gens sont gênés par ça.
On dit que c'est mauvais pour les vaches aussi.
Oui.
C'est mauvais pour les vaches, je me disais que ça devait être mauvais pour les hommes, non?
Oui. Vous croyez que les vaches sont sensibles à une heure près? C'est possible. C'est possible, je n'ai pas la qualification pour le dire. Ça m'étonnerait qu'une heure suffise pour perturber profondément un équilibre biologique.
Oui, Alain Jobert, vous voulez dire quelque chose?
Oui, je ne sais pas si une heure perturbe, mais en tout cas une saison décalée perturbe profondément. Je viens de constater en traversant Paris que la plupart des jeunes marronniers étaient en fleurs et avaient sorti des feuilles vertes toutes neuves. C'est un phénomène quand même assez étrange.
Ah oui. Vous l'expliquez comment?
Ça, moi, je ne l'explique pas.
Bon, on va revenir.
Quelqu'un m'a dit c'est Tchernobyl.
Bien. On va revenir à votre livre. Je vous présente donc tout de suite les trois journalistes qui vont ce soir vous interroger. Alain Jobert, qui est intervenu. Il y a là également Pierre Bonsen du magazine Lire. Et également Dominique Leglu de Libération. Dominique Leglu, si vous ne deviez retenir qu'une idée parmi toutes celles que développe Henri Laborie dans son livre, ça serait laquelle?
J'aimerais parler du vide quantique. Vous savez, ce rien où il y a plein de choses qui nous plonge dans une angoisse cosmique, et apparemment, j'ai cru comprendre que c'est ce que voulait faire Henri Laborie, de façon à ce que tout le monde oublie ses petits problèmes quotidiens. Alors le vide quantique, pour moi, c'est idéal.
Alain Jobert, à part les marronniers.
Eh bien, moi, je retiendrai l'idée des niveaux, puisque finalement, je crois que tout le livre a été écrit pour enfoncer ce clou que vous avez, que vous essayez d'enfoncer depuis une vingtaine d'années, donc les niveaux d'organisation de la matière.
Bon, et ben voilà au moins deux sujets qui mériteraient d'être développés, qui vont être développés sûrement, une fois que Pierre Bonsen, vous nous aurez présenté plus en détail l'homme que nous avons en face de nous ce soir.
Oui, alors que toute cette semaine, l'Hexagone semble n'avoir pas vécu avec d'autres horizons que le fameux paysage audiovisuel, on éprouve, Henri Laborie, disons, quelques satisfactions à changer de registre ce soir en vous recevant pour votre livre, où il est beaucoup question d'astrophysique. Bref, nous allons passer du paf au Big Bang. Mais dans le fond, sinon la forme, il n'est pas sûr que cela soit moins agité. D'autant que vous avez la réputation, Henri Laborie, d'être à votre manière un provocateur. Dans votre livre, vous écrivez vous-même, à propos de l'une de vos recherches, cette phrase qui pourrait s'appliquer à l'ensemble de votre itinéraire. « Je n'ai pas entraîné un consensus de ce qu'il est convenu d'appeler la communauté scientifique internationale. » Ce consensus existe pourtant pour vous reconnaître sans ambiguïté des découvertes fondamentales dans le domaine de l'anesthésie, de l'hibernation artificielle et surtout des tranquillisants. Biologiste du comportement, vous avez créé un laboratoire de recherche essayant de vivre contre vents et marées en marge des structures officielles. Mais vous avez toujours tenté aussi de vous adresser au grand public à travers de nombreux livres, voire même avec le cinéma. Rappelons que vos théories sur l'individu et l'environnement, comme votre concept central, l'inhibition d'action, ont été littéralement mises en scène par Alain René dans son film « Mon oncle d'Amérique ». Alors votre nouveau livre, « Dieu ne joue pas au dé », un titre, rappelons-le, qui est emprunté à Einstein, ce livre surprendra vos lecteurs habituels dans la mesure où il est plus souvent question de physique que de biologie. Pour aller vite, beaucoup trop vite, disons que vous essayez de montrer comment les sciences du vivant, qui, dites-vous bien, ne se réduisent pas à la génétique, s'intègrent entre l'infiniment petit des particules et l'infiniment grand du cosmos. Au passage, on retrouve quelques thèmes qui vous sont chers, par exemple la notion de niveau d'organisation, ou alors tout simplement la spécialisation de deux hémisphères cérébraux. À dire vrai, on trouve de tout dans ce livre, comme en témoigne la recette du cocktail Big Boss, que vos collaborateurs du laboratoire vous ont concocté un jour d'anniversaire. Alors je vais lire cette recette, voici le cocktail Big Boss. Pour l'obtenir, vous mélangez dans un verre plein de vide, dont on aura préalablement démêlé les supercodes, deux quarks charmeurs, un boson excité, un trait de whisky, un zeste de rien, un peu de tout, deux doigts de cognac, agité dans le sens de l'holomouvement, chauffé jusqu'à l'élévation de l'âme et goûté le sucré du sacré. Attention au trou noir, c'est signé les bosons futés et on a envie de rajouter docteur à votre santé.
C'est le whisky et le cognac qui est le plus important là-dedans. Hein. Vous ajoutez d'ailleurs que ce texte montre que l'on peut encore s'amuser avec les grands problèmes. Pourquoi encore ? Vous avez peur que les scientifiques ne sachent plus s'amuser ?
Je pense que s'ils sont scientifiques, c'est qu'ils s'amusent. Sans ça, je pense qu'il faut autre chose.
Les scientifiques aiment bien sourire d'eux-mêmes.
Ah, je ne suis pas sûr.
Non.
Oula.
Non.
Faut atteindre un certain point de, je dirais, de désintéressement pour pouvoir commencer à se sourire de soi-même, oui. C'est très difficile de sourire de soi-même.
L'humour n'est pas une vertu plus pratiquée chez les scientifiques que chez les hommes politiques, par exemple ?
Si, je pense quand même, parce que non, les scientifiques ont parfois, souvent, l'impression que leur vérité n'est pas éternelle d'une part et que d'autre part elle est fragile et révisible. Alors que les politiques détiennent une vérité définitive qu'ils essaient de propager. Enfin...
Vous n'êtes pas très gentil pour les hommes politiques dans votre livre, hein ? Vous qualifiez leur discours d'incohérent.
Oui, mais je tout de suite après, je dis que le mien aussi.
Tout
donc,
à fait. Bon. Vous voyez que les scientifiques ont de l'humour. On pourrait peut-être commencer par parler du titre. Dieu ne joue pas au dé. C'est donc une phrase que vous avez empruntée à Einstein. S'il ne joue pas au dé, Dieu, il joue à quoi, Henri Laborie ?
Je dis que si Dieu ne joue pas au dé, peut-être que l'homme est forcé d'y jouer. Si Dieu ne joue pas, ce que voulait dire Einstein, c'est que il y a une réalité que nous ignorons, mais qui n'est pas aléatoire. C'est ce qu'on appelle le réalisme d'Einstein. Elle n'est pas aléatoire. Et je pense que, vous voyez, même De Broglie, à la fin de sa vie, qui avait participé à l'improbabilité quantique, qui, avec le principe d'incertitude, faisait que tout était improbable. C'est le hasard et la nécessité de Monod. Et même De Broglie, à la fin de sa vie, a dit « je ne crois pas que ce soit aléatoire ». Alors actuellement, ce qui est assez amusant, c'est qu'on commence à se rendre compte ce qu'on appelait l'aléatoire, ce qu'on appelait le chaos. C'est assez difficile à expliquer. Je ne peux pas, dans une interview comme celle-là, la développer. Je le fais un peu dans mon livre, en une page et demie. D'ailleurs, c'est assez rapide. Ça rejoint ce que Prigogine a appelé les structures dissipatives. Et ça rejoint la dernière phrase de mon livre où je dis « Quand je regarde un jet d'eau, j'ai l'impression de nous voir en miroir. » Parce qu'un jet d'eau, c'est une structure dissipative. Il y a une énergie qui pousse l'eau en l'air, qui prend des formes variées, qui prend une forme. Et à partir du moment où il y a une forme qui apparaît, on a dit « Elle est aléatoire. » Mais en fait, on sait que, par exemple, un pendule qui se balance est attiré par ce qu'on appelle un attracteur, c'est-à-dire la gravitation qui fait qu'au bout d'un certain temps, il sera balancé, il reviendra à sa position première. Mais que s'il y a plusieurs attracteurs dont on ne peut pas connaître le nombre, ni même l'orientation, la valeur, à ce moment-là, on croit qu'on est dans l'aléatoire et en fait, on est encore dans l'indéterminisme. C'est bien que, actuellement, on commence à parler du déterminisme du chaos. Ce qui montre que nous sommes à la limite de ce que, actuellement, l'homme a pu comprendre, à savoir qu'il lui semblait que tout était aléatoire et que c'était par chance que les choses se passaient. Et il se rend compte qu'il y a derrière ce qu'il croyait être aléatoire un déterminisme qu'il ignore.
Bien. Dominique Leglue.
Il y a une chose qui m'a gênée quand même dans votre livre, c'est une espèce de foi scientiste. Quelque part, à la fin du livre, vous dites que quand les sociétés fourniront à chaque individu autant d'informations sur ce qu'il est, sur les mécanismes qui lui permettent en résumé de vivre, la vie quotidienne de cet individu aura la chance d'être transformée.
Si je vous dis que moi,
si je vous dis que moi, je n'y crois pas.
Alors, ce n'est pas une foi scientiste. Je pense que l'homme du paléolithique, il ne savait pas grand-chose. Et il était dans un monde qu'il ne comprenait pas. Il a essayé de découvrir les règles de ce qui passait autour de lui. Il a créé la physique, le langage, les mathématiques. Et finalement, il a mis de l'ordre dans la matière. Il en est arrivé à la bombe atomique, d'ailleurs. Ce qui est à nouveau une forme de désordre. Mais ce n'est pas un. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas de projet scientiste. Je dis que plus on sait de choses, moins on fait de bêtises. C'est tout.
J'avais cru comprendre que plus on était heureux. Mais après tout, non.
Ah, il n'y a que les imbéciles qui sont heureux. Vous savez, ça, à partir du moment où vous ignorez, vous ignorerez toujours, vous n'êtes jamais heureux, puisque vous essayez de comprendre et que vous n'arrivez jamais à comprendre complètement. Donc. On ne peut pas être complètement heureux.
Donc, vous êtes en train de discuter sur un malentendu. Elle a cru comprendre que quelque chose que vous n'avez pas dit. On va passer tout de suite à une autre question.
Elle est pourtant importante, sa question.
Oui, mais j'ai cru comprendre
que... Je n'ai pas d'attitude scientiste. J'essaie, dans un espace qui est le mien, de comprendre le mieux ce que je suis, ce que sont les autres, ce qu'est le monde et l'univers qui m'entoure. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas le seul. D'ailleurs, vous ne pouvez qu'avoir qu'à... À aucun moment, je ne critique les mystiques, par exemple. Je dis, c'est un domaine que je ne connais pas.
Alain Jaubert.
Oui, moi, si j'ai bien compris le sens général de votre livre, j'ai l'impression que vous avez été exploré, bon, vous allez sans doute vous faire taper sur les doigts, d'ailleurs, par vos collègues physiciens, vous êtes allé explorer un domaine qui n'est pas le vôtre, pour essayer de montrer, en fait, que ce que vous proclamiez depuis des années, les autres aussi l'avaient découvert dans leur spécialité. Est-ce que je me trompe ?
C'est pas tout à fait ça, parce que quand même, je peux dire c'est moi que je, le premier, qui, etc. Non, ça serait un peu ridicule. Non, ce que je crois, effectivement, vous avez raison de le dire, tout le bouquin est bâti sur la notion de niveau d'organisation. Parce qu'effectivement, ces niveaux d'organisation, dans mon métier, je les ai vus entre 1950...
Henri Laborie, il est temps d'expliquer peut-être aussi brièvement, aussi simplement que possible, de quoi il s'agit. Là,
parce simple, les niveaux d'organisation, c'est simple. Tout le monde sait qu'une molécule est faite avec des atomes. Et qu'on passe donc du niveau de l'atome au niveau de la molécule. Ces molécules se réunissent, je passe sur les détails intérieurs, intermédiaires, mais ça fait des cellules. Ces cellules se réunissent, c'est un nouveau niveau d'organisation, en organes. Ces organes s'organisent en systèmes. Ces systèmes font des organismes en se réunissant. Et ces organismes en se réunissant font des groupes humains, des familiaux, confessionnels, syndicaux, etc., des États et des groupes d'États. Ça aboutit à l'espèce. C'est ça, les niveaux d'organisation. Or, chaque niveau d'organisation a sa structure propre. Et il est en relation, à la fois en allant et en revenant, avec le niveau qui l'englobe, qui le contrôle et l'aliène, finalement.
Et pour revenir à la question d'Alain Jaubert, ces niveaux d'organisation, vous les avez découverts dans votre discipline, la biologie, et dans ce livre, vous expliquez qu'ailleurs aussi, on les retrouve.
Je les retrouve, bien sûr, je les retrouve. Je les retrouve en physique. Des particules, et je les retrouve en physique, en astrophysique. Mais alors je me pose la question de savoir si ce sont les mêmes, parce que finalement, on en connaît moins actuellement de niveaux d'organisation. Ils existent. Bon, au début, on a cru qu'il y avait simplement des noyaux avec protons, neutrons, puis après on s'est aperçu qu'il y avait des quarks, et puis qu'il y avait des gluons entre les deux, etc. Il y a donc des niveaux d'organisation, mais qui sont moins nombreux que ceux que nous voyons dans les systèmes vivants. Et on a l'impression qu'en 3 milliards d'années, 3 milliards 500 millions d'années, sur cette petite planète isolée, ces niveaux d'organisation se sont accumulés avec une vitesse absolument extraordinaire. Alors, bien sûr, vous les retrouvez encore en astrophysique. Il y a des systèmes solaires, des galaxies, des amas de galaxies, des super amas de galaxies, etc. Il y a toujours il y a des niveaux d'organisation. Et ces niveaux d'organisation sont absolument ils sont fondamentaux à comprendre, parce qu'on ne peut pas traiter à un niveau d'organisation ce qui existe et ce qui fait qu'un autre niveau d'organisation fonctionne.
Pierre Bonsen.
Oui, il est beaucoup question de physique dans votre livre, d'astrophysique. Mais vous critiquez quand même implicitement la tendance des astrophysiciens aujourd'hui. On en a même eu ici à Interlire, Hubert Reeves, pour pas le nommer, presque à flirter peut-être un petit peu trop avec peut-être le mysticisme ou la poésie sidérale ou philosophique comme ça.
Oui, c'est pas tellement Reeves.
Non, mais enfin,
Reeves a conservé encore les pieds sur la Terre. Non, c'est certains physiciens, mais alors je suis très près de certains comme Bohm, par exemple, que j'ai bien lu. Je suis beaucoup plus loin de Capra, qui, à partir de la physique, et non pas de l'astrophysique, de la physique, débouche sur sur l'hindouisme, le zen, etc. Alors, la seule chose, je les crois en physique, je ne suis pas capable de juger leurs travaux en physique. Ce qui me gêne, c'est qu'ils font de la physique avec un cerveau, et que ce cerveau, il ignore complètement son fonctionnement.
Oui, mais est-ce que vous-même, vous n'êtes pas passé un peu vite parfois aussi de la biologie aux sciences sociales ou politiques?
Oui, c'est les...
Et pour revenir au cerveau...
Dominique Leglue.
Vous dites au début du livre, notre cerveau est-il fait de telle façon qu'il ne peut trouver que ce qu'il possède déjà en lui? Est-ce que vous avez répondu à la question en fin
de livre?
Parce
qu'il possède ce qu'il est. Enfin, c'est... Est-ce que j'ai mis qu'il possède? Qu'il possède, oui, alors c'est pas exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que sa structure correspond à la structure qu'il trouve. C'est-à-dire, les rapports qui existent entre tous ces éléments, à chaque niveau d'organisation, les rapports qui existent entre les atomes, les molécules, les organismes intracellulaires, les cellules, les neurones, etc., ces rapports sont peut-être un modèle tel que nous les comprenons. Ils sont peut-être un modèle du monde qui l'entoure. Et donc, il a déjà en lui ce qui existe dans le monde qui l'entoure. Mais c'est une question que je pose.
Henri Laborie, pour revenir à la question que vous posez à la fois Alain Jobert et Pierre Bonsen, c'est vrai qu'à l'image, tout à fait des propos que vous êtes en train de tenir, votre livre, il est pas toujours facile à lire. Hein. Parfois, oui. Il faut s'accrocher, comme on dit. Oui. Et il faut s'accrocher parce que, entre autres choses... Vous traversez les frontières, vous traversez les disciplines, vous passez de la biologie à l'astrophysique, à la physique des particules. Est-ce que c'est un exercice auquel on peut encore se livrer, au point de spécialisation où on en est? Est-ce qu'on peut encore essayer de tout comprendre?
Alors, je vous dirais que je l'ai fait à une époque où j'ai commencé à le faire, en biologie, à une époque où ce n'était pas bien vu. J'ai écrit un traité de physiologie, j'avais pas de diplôme de physiologie, j'étais pas professeur de physiologie, j'ai trouvé des molécules, je ne suis pas pharmacologiste, etc. Pourquoi? Parce que justement, j'ai travaillé à différents niveaux d'organisation. Et que dans le laboratoire, nous ne travaillons jamais à un seul niveau. Nous essayons de partir de la molécule, d'arriver au comportement. Et essayer de voir comment chaque niveau d'organisation est commandé par l'autre. Et quand vous avez une hypothèse de travail qui est cohérente, avec chaque niveau d'organisation, à ce moment-là, vous pouvez expérimenter, vous avez beaucoup de chances pour qu'elle soit vraie. Pas toujours.
Mais il faut être plusieurs qui se comprennent.
Il faut d'abord que chaque élément de recherche dans le laboratoire, chaque individu du laboratoire, soit déjà interdisciplinaire pour lui-même. D'accord. C'est-à-dire qu'il est une technique. Une technique, ça demande quelquefois une vie d'homme à posséder. Mais que le langage qu'il utilise, il puisse se communiquer à l'autre et qu'ils comprennent le langage de l'autre de façon à ce que la communication passe. Ça, c'est fondamental. On a besoin de, il y a 30 ans que je le dis, on a besoin de monotechniciens, mais de pluriconceptualistes, de polyconceptualistes.
Dominique Leglue.
Je voudrais quand même répondre tout de suite à ce que... Je n'ai pas passé vite. Je prétends que faire de la psychologie, de la sociologie, de l'économie, de la politique, sans savoir comment fonctionne ce cerveau, ça me semble assez curieux, parce que avec le langage, on explique tout, mais le langage, le discours logique n'a pas la même forme, la même structure que le discours de la biochimie cérébrale ou de la neurophysiologie.
Vous dites carrément que le langage, c'est une bouillie. Je reprends votre terme, langage est une bouillie.
Oui, c'est vrai.
Ouais, bon. Dominique Leglue va vous poser une question.
Oui, après ce que vous nous avez dit, j'aimerais savoir quelles sont les notions que vous avez emprunté à la physique ou à l'astrophysique et qui vous semblent les plus fécondes pour un biologiste comme vous?
Une seulement.
Une seule. Écoutez, la seule, si vous voulez, puisque vous en voulez une, la notion de vide quantique m'a transformé, elle n'a rien transformé encore, mais elle m'a apporté quelque chose de considérable. Je me suis rendu compte, brusquement, que depuis le début de mon travail, depuis ma médecine, le début de ma médecine, je ne dis pas quand, enfin, il y a longtemps, je n'avais travaillé qu'avec une toute petite partie de la matière, c'est-à-dire les nucléons et puis les électrons qui tournaient autour, et que nous étions un grand vide et que ce que nous touchons, ce que nous sentons, n'est qu'une toute petite partie de la réalité. Alors je me dis, est-ce qu'il n'y a peut-être pas quelque chose là à explorer ? Non pas avec des accélérateurs de particules, vous comprenez ce que je dis, mais avec la connaissance des autres et à ce qu'ils vous apportent. Alors, ne serait-ce que ça, ça, ils m'ont apporté beaucoup.
Alain Jaubert.
Oui, je crois qu'on a assez bien compris le sens et la portée de votre livre. Moi, je voudrais revenir à la personnalité d'Henri Laborie. Une jeune femme se fait violer dans une rue de Paris, les journalistes viennent vous voir. Il y a une négociation sur les armements nucléaires, les journalistes viennent vous voir. Il y a un meurtre raciste à Marseille, les journalistes viennent vous voir. Est-ce que vous pensez que l'homme de science doit avoir réponse à tout ?
Je ne pense pas qu'il a avoir réponse à tout.
Mais vous répondez parce toujours. Que...
Ah oui. Bah oui, mais je ne suis pas un homme de science, d'abord. Et d'autre part, ce que je veux faire passer quand je réponds, c'est qu'on ne peut pas juger un événement dans le petit contexte où il est enfermé. Et que si vous ne... Le viol d'une femme, le meurtre, etc., si vous ne le placez pas dans un contexte planétaire... Vous ferez des petits plâtrages, vous mettrez un sparadrap sur une plaie momentanément et ça ne servira à rien. C'est ça ce que je veux dire. Et c'est justement la notion de niveau d'organisation qui vous amène à ça. Quand vous traitez un problème de façon strictement localisée à un seul niveau d'organisation, c'est foutu, vous faites forcément une erreur.
Pierre Bonsen.
Je vous propose un petit exercice pratique. On a beaucoup parlé dernièrement d'agressions de caractère raciste qui avait eu lieu à Châteauroux, vous savez, des jeunes oui. Qu'on appelle des skinheads. Comment interprétez-vous cela à différents niveaux d'organisation ?
Je l'interprète en ce sens qu'il y a toute une société dans laquelle nous sommes plongés qui est une société raciste. Et pourquoi est-elle raciste ? Parce que depuis 12 000 ans, la notion de propriété de l'espace et des êtres, des objets et des êtres, qui est un apprentissage, qui pas, il n'y a pas de région dans le cerveau, qui est un apprentissage de l'environnement dans lequel un individu se trouve et agit, a conduit les individus à la recherche d'une dominance pour s'approprier les objets et les êtres. Actuellement, le résultat a été un progrès technique considérable et une ignorance maintenue, conservée de tout ce qui peut être le fonctionnement d'un cerveau humain en situation sociale. Alors, quand il y a des périodes royales et que on est en pleine croissance, comme on dit, à ce moment-là, on attire les gens qui sont moins payés pour qu'ils travaillent à moindre frais que le produit travail soit mieux rentabilisé. Et puis quand ensuite on passe dans une période où c'est plus difficile de vivre, ces gens-là prennent le travail des gens, des autochtones, comme on dit, et à ce moment-là, on devient hargneux contre eux et on veut les tuer.
Le professeur Henri Laborie...
C'est là encore un exemple typique du fait de limiter un événement dans l'espace et à une période de l'histoire, sans voir comment cet état de fait est arrivé progressivement. Et c'est là, effectivement, à un moment donné, je dis, même si vous connaissez le secret des secrets, c'est-à-dire le niveau d'organisation, il y a des moments où il vous souffle la solution, mais les bras vous en tombent, et vous agirez quand même, sachant que ça n'a pas de valeur, que votre action est même dangereuse, mais il faut... J'ai pris un exemple maritime que j'avais pris avant... Il vaut mieux rentrer de la voile avant la tempête.
Henri Laborie, les médias vous aiment bien. Enfin, je me souviens qu'il y a quelques années, un journal avait titré « Le docteur Henri Laborie a trouvé quelque chose pour vaincre définitivement la douleur ». Ce que vous vous étiez empressé, naturellement, de rectifier, de démentir. Est-ce qu'un jour, on pourra vaincre la douleur ?
Quelle douleur, d'abord ? La douleur, c'est très, très compliqué. Vous savez, c'est très subjectif. J'aurais préféré que vous me demandiez est-ce qu'un jour on pourra vaincre la mort.
Et vous auriez répondu quoi?
Sûrement pas, mais bon. J'en suis pas sûr.
Allons bon.
Ah non, je suis pas sûr.
C'est-à-dire?
Mathusalem avait vécu 900 ans. Non, ce que je veux dire, je m'occupe du vieillissement depuis de nombreuses années. Je pense que on a fait de gros progrès depuis quelque temps sur ce problème. Et la douleur de vieillir est une douleur. C'est impossible de parler de ça en quelques minutes. La douleur, la différence, la douleur morale, la douleur physique, etc. Il y a un monde là-dedans. Donc, je pense qu'on peut supprimer la douleur. On l'a d'ailleurs très largement supprimée. Mm-hmm. Mais oui.
Bah, vous faites toujours des expériences sur vous-même?
Bon, oui, bien sûr. Je suis le premier à pouvoir juger.
Et comment vous expliquez
quand vous dites qu'on a, non, pardonnez-moi, quand vous dites qu'on a très largement vaincu la douleur, enfin, je veux dire.
Sans vous souffriez.
Oui, mais après l'opération, on souffre.
Et même après l'opération, actuellement, on n'a pas tellement de souffrance, enfin de douleur. Hein, non, je pense que ce qui est. Non, la douleur elle n'est pas vaincue en ce sens qu'un individu conscient, un cancéreux, par exemple, ou un stade avancé, va souffrir et restera conscient.
Pierre Bonsen veut vous poser une question, ça sera la dernière. Oui, choisissez-la bien, Pierre Bonsen.
Vous venez de faire allusion à vos travaux sur l'hibernation artificielle.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez d'un chanteur comme Michael Jackson, là, qui se met dans des caissons à oxygène, là, un peu de peur de vieillir? Vous croyez qu'il a une chance rassurer ses fans?
La plus grosse est connerie, parce que l'oxygène est toxique de la vie. Et le caisson à oxygène, ça fut une période où on a cru que ça allait révolutionner la médecine. Et puis, on a dépensé des milliards ou des millions à l'époque pour donner à tous les grands services un caisson à oxygène. Puis maintenant, on l'utilise uniquement dans des cas comme, bien sûr, l'intoxication oxycarbonée ou certaines infections comme le tétanos, qui sont dues à des microbes anaérobies et qui, évidemment, quand on les met en oxygène en pression, on meurt avant que le malade lui-même meure. Mais l'oxygène, non.
Bref, on transmet l'information à Michael Jackson, c'est très grave alors, ce qu'il fait.
Oui, non, mais c'est dangereux.
On a le droit de terminer là-dessus, Henri Laborie.
Oh, moi, je suis à votre disposition.
Il le faut, malheureusement. Merci. Je rappelle le titre du livre du docteur Henri Laborie. Dieu ne joue pas au dé, c'est publié chez Grasset. L'émission Interlire est réalisée par Marie-Josée Barthaud. À dimanche prochain avec un autre auteur, Michel Del Castillo. À dimanche prochain.